assiste à beaucoup de ces réunions, la qualité est diverse. Certains sont très, très bons, d'autres très, très mauvais. Celle-ci a été bien structurée, avec des sujets bien choisis, avec une suite naturelle, des bons conférenciers couvrant toute une gamme d'expériences, ainsi qu'un horaire et un environnement physique qui ont rendu possible la discussion et l'implication interpersonnelle. Alors, remercions les organisateurs pour ce travail très bien fait. Merci beaucoup. J'aimerais aussi remercier de façon particulière nos collègues de langue française qui ont participé dans la réunion, soit en écoutant l'anglais ou en écoutant l'interprétation simultanée, ce qui pose toujours défi parce que ça demande un effort mental supplémentaire.
Pour votre collaboration et pour l'effort spécial que vous avez fait pour participer. That's French spoken with a prop.
Voilà le français avec l'accent de Vancouver.
C'est aussi touchant de voir ce groupe de personnes ici dans l'auditoire et le dévouement et la participation de ceux qui sont attirés par ce sujet. Il y a très longtemps, avant de connaître quiconque ici, lorsque nous avions des petites réunions sur le bien-être des animaux, les personnes, je vais exagérer un petit peu, il semblait que c'était les chiens abattus du statu quo. Et qui grognait lorsqu'on parlait de changement dans un coin ou l'autre de l'industrie. Et il ne s'agissait pas de producteurs. Les producteurs, invariablement, étaient plus ouverts d'esprit que ceux qui prenaient la parole en leur nom. Et maintenant, nous sommes tellement loin de cela. Et c'est un plaisir de voir que la qualité, le dévouement des personnes qui sont attirées par cette question. Et c'est un honneur pour moi de parler en votre nom. Et qu'est-ce que j'ai aimé au sujet de cette rencontre? Eh bien, j'ai aimé le fait que dans la présentation d'Anne-Marie, dans un processus d'évaluation assez long en Suède, on a parlé demander à l'animal, mais ça a pris 5 minutes. Moi, j'ai travaillé la plupart de mon temps avec le cochon et j'ai demandé l'opinion d'un cochon et je l'ai eu en 1 minute plutôt que 5. Voici la réponse. Et je peux emprunter d'un poème anglais très connu, c'est peut-être bon ou non. Voici ce que j'ai entendu. Qu'est-ce que cette vie, si nous n'avons pas de chance de nous amuser, de lutter, pas de chance d'aller manger les fleurs du voisin, pas de chance lorsque les autres cochons que nous rencontrons, nous pouvons les battre à pleine couture. Et c'est une vie piètre. Nous n'avons pas de chance de nous amuser et de lutter. Ça, c'est ce que le cochon nous a dit. Eh bien, je vais lui dire que vous avez bien applaudi. Qu'est-ce que j'ai aimé aussi? J'aime le processus d'élaboration du nouveau code. J'aime l'accent sur l'environnement, sur les processus, sur les résultats. Je crois que c'est un bon équilibre qui n'a pas encore été atteint ailleurs à d'autres moments. J'aime le fait que l'apport du scientifique est beaucoup plus formel, qu'on demande aux scientifiques de faire un examen complet de la documentation, que ça devient un point d'appui, mais que ce n'est pas le processus décisionnel lui-même. Donc, les normes ne sont pas axées sur les sciences, mais sont éclairées par les sciences. Et les scientifiques et d'autres, pour utiliser le terme de Jeff Rushton, ce qui est acceptable, tout ce qui est fondé sur les valeurs se retrouve par consensus. Le processus est fondé sur la science et je crois que c'est une grande amélioration. Avant, il y avait des scientifiques qui fonctionnaient comme des intervenants, comme tous les autres. J'ai bien aimé l'accent sur la consultation. Lorsque Neil Jotham, au début des années 80, le Conseil du port avait 4 représentants, un de l'Ontario, un du Québec, un de l'Est et un de l'Ouest. Il y avait Walton Newton de Neepawa. Est-ce que quelqu'un connaît Walton? C'était un très bon participant, un très bon choix. Le code a été terminé. Je me suis retrouvée à une rencontre en Alberta où j'ai trouvé qu'on critiquait le code de part et d'autre. Le processus a été rejeté parce que c'était quelque chose qui avait été concocté à Ottawa sans consulter l'Ouest. Et il semblait que Neepawa, Manitoba faisait partie de l'Ouest pour Ottawa. Mais du point de vue de l'Alberta, ça ne regardait pas de la même façon. Benjamin Disraeli a dit apparemment « La flatterie aide toujours, mais dans le cas de la royauté, il faut le mettre avec une pelle, il faut l'étaler avec une grosse pelle. La consultation aide toujours, mais dans un pays avec une géographie comme la nôtre, où il est facile pour que les gens se soient aliénés, estiment qu'ils sont isolés, est-ce que la consultation prend du temps supplémentaire et nous l'avons vu dans ce processus. Et j'ai aimé aussi l'accent sur la conformité des mesures de la conformité non réglementaire. J'étais à une rencontre en Asie avec 6 autres personnes qui parlaient d'abattage, qui donnaient des conseils au sujet de l'abattage. À la fin de tout cela, nous avons eu un débriefage avec des hauts fonctionnaires du gouvernement. Les autres participants occidentaux étaient tous des Européens. Ils ont dit, vous avez besoin d'une loi sur ci, sur ça, sur cela. Et le représentant asiatique a écouté avec beaucoup de politesse par l'entremise d'un interprète et a parlé très doucement et a dit, nous avons déjà ce type de loi. Mais le problème en est une de conformité. Comme projet pilote, on a essayé pendant un mois dans une région d'appliquer les lois en vigueur. Et à la fin du mois, 2 des inspecteurs avaient été tués. Ils cherchaient une approche non réglementaire face à la conformité. Au Canada, alors, la critique des inspecteurs est plus figurative que littérale, mais nous avons quand même besoin de ces mesures non réglementaires. J'ai une raison pour laquelle la réglementation pose un tel problème, comme notre invitée australienne l'a bien souligné. La façon dont les animaux sont traités sur les fermes canadiennes, c'est une question de juridiction provinciale et territoriale. Pour avoir un programme uniforme de nature réglementaire, nécessiterait la collaboration de 13 législatures provinciales et territoriales et il faudrait des rédacteurs juridiques pour inclure les codes auxquels on ferait référence dans les statuts et dans un libellé qui donnerait un statut égal. Et nous devrons, je pense, travailler vers cela en traitant avec nos partenaires commerciaux et notre public. Il serait rassurant de dire voici les normes sur lesquelles nous nous sommes entendus, voici les instruments réglementaires qui leur donnent le même poids, un poids juridique et le même poids partout au pays. Je crois que ce serait une bonne chose à présenter à notre public, à nos partenaires commerciaux. C'est un objectif très distant vers lequel nous devrions travailler et entre-temps, et la plupart de nos efforts doivent aller vers les mesures non réglementaires. J'ai aussi aimé à cette conférence l'accent sur un processus valable pour les producteurs. pas simplement au point de niveau d'une licence ou d'un permis pour pratiquer, mais on a vu des exemples d'étalonnage où on applique la science du bien-être, les normes comportent des avantages et perçus comme positifs par le producteur. Dans notre cas, nous avons eu deux étudiants qui ont visité 40 fermes dans la vallée Fraser. Ils surveillaient les liaisons aux jarrets, des choses comme ça dont Anne-Marie parlait. Les producteurs étaient enchantés d'avoir le feedback, les rétroactions. Ce n'est pas comme un hôpital où on peut comparer les résultats. Vous faites ceci comme cela, moi je fais cela comme ça. Quel est votre résultat? Cette possibilité n'existe pas tellement dans la production des animaux d'élevage. Et là où les producteurs pouvaient voir les résultats dans d'autres qui travaillaient vers les mêmes résultats dans les mêmes conditions, c'était un modèle très populaire. On nous a demandé de le faire au Texas, en Californie, dans les États de la Nouvelle-Angleterre. Un fabricant de moulets l'a vu comme un service assez populaire et ce serait une source d'extension qu'ils pourraient faire pour leurs clients. Et ils ont engagé deux de nos diplômés pour faire ce programme dans d'autres parties des États-Unis. La science du bien-être animal, et je vais faire une parenthèse, lorsque mon père a étudié l'agriculture dans les années 30, son sujet préféré était l'élevage, l'alimentation, la reproduction, le logement, la gestion et la manipulation des animaux. Ensuite, la science de la nutrition est née, la physiologie, la génétique. L'alimentation des animaux, c'est devenu la nutrition des animaux. La reproduction, c'est devenu la génétique et la physiologie de reproduction. Mais le logement et la manipulation et la gestion ont pris un à côté parce qu'il n'y avait pas de domaine de science auquel les appliquer. On a vu l'épidémiologie, la physiologie du stress, le comportement des animaux. Et on a posé des questions sur les effets sur les animaux, comment ils étaient logés, comment ils étaient manipulés. Et ça a créé un domaine d'élevage bien informé. Et lorsque mes collègues vont parler à des producteurs, il y en a peut-être 1000 à l'étranger dans les salles. C'est parce que le bien-être n'a pas le même bagage. C'est tout simplement vu comme la nouvelle science, comme la physiologie reproductive ou la nutrition animale qui va nous aider à régler des problèmes. Les gens ne veulent pas des animaux qui sont blessés, qui sont déshydratés. Et voilà de la science pour les aider à atteindre leurs objectifs. Et dans la recherche du bien-être des animaux, dans son application par les normes et par d'autres processus, et il faut que ce soit avantageux pour les producteurs. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qui m'a rendu nerveux au cours de cette rencontre? Il y a un univers de termes et un univers de gestes. Ici, nous parlons de termes et de mots et l'élaboration de codes. Le processus d'élaboration de code, c'est la même chose. Et je suis toujours nerveux à savoir si l'univers des mots, nous allons vers l'univers de l'action ou des gestes. La fièvre aphteuse, l'an dernier, en Corée du Sud, on a vu cela dans les vidéoclips qui montraient plein de camions de porcs qui étaient enfouis, vivants, dans des vastes trous sans être abattus. L'OIE avait une norme pour l'abattage des animaux et l'éradication de la maladie. Et la Corée du Sud faisait partie du processus d'approbation pour la norme. Ceci a permis à l'OIE, le Canada, par notre vétérinaire en chef, de mettre des pressions auprès du gouvernement coréen pour respecter les normes dont eux avaient fait partie pour l'adoption. Et toute cette pression internationale aurait pu être vue comme une leçon de morale par les pays riches, mais parce que la norme existait, je crois que ça nous a permis d'arrêter ce processus. Mais à chaque étape de ces processus, alors que nous essayons de bien déterminer la définition des mots, nous devons être vigilants, nous devons faire preuve de créativité pour savoir comment les changements dans les univers des mots vont faire une différence dans l'univers des gestes. Deuxième nervosité, le Conseil national pour le soin des animaux d'élevage est un modèle très puissant. Bill Ballantyne et moi ont co-présidé une consultation nationale il y a 10 ans qui disait que nous avions besoin d'un organisme comme le CNSAE qui fait le genre de choses que l'on voit aujourd'hui. Et maintenant, nous voyons à quel point ce conseil est nécessaire. L'idée que cet organisme est comme un employé à contrat sur une durée déterminée devrait amener la terreur dans nos cœurs. Et j'espère que nous allons toujours tous retourner dans nos coins respectifs pour donner à cet organisme l'avenir qu'il mérite. Troisième nervosité, le bien-être des animaux a 3 dimensions. Pas dans le sens dont nous venons de parler, mais nous avons besoin des bons animaux, leur composition génétique, dans un bon système de logement et de gestion géré par la bonne personne qui peut traiter ces animaux et ce système de logement. Les réglementations portent sur le logement, mais les mesures des résultats sont là aussi. On en a entendu parler aujourd'hui. On n'a pas entendu beaucoup sur la génétique. Parfois, la génétique est un facteur important, une sélection pour certains traits, augmentant des problèmes de boiterie, de désordre métabolique. Et le secteur de la production doit vraiment communiquer avec les éleveurs pour régler ce genre de problème. Parfois, le problème se trouve dans cette interaction à 3 sens. Dans les premiers jours de l'alimentation électronique des truies, je suis allée dans des fermes qui avaient adopté cette technologie et j'ai vu que l'équipement avait ce que John Patience appelait le service de la recherche. John a bien souligné que si on n'a pas un effort concerté de recherche au nom des producteurs, chacun doit faire sa propre recherche. Et ce service de la recherche et cette pile derrière la grange d'ouvrages qui ont été achetés et qui ne donnaient rien. À ces fermes, j'en ai visité 2 pendant un seul voyage. Ces animaux et son producteur, cela ne marchait pas dans ce système de production, de l'alimentation. Les animaux étaient en piètre état et les animaux devaient lutter entre eux pour s'alimenter. Alors, nous avons le bien-être animal. Il ne s'agit pas seulement de regarder le logement et la gestion. Ce n'est pas seulement les compétences d'élevage. Les 2 sont importants. C'est cette interaction à 3 sens avec la génétique comme étant une des 3 composantes. Quatrièmement, ce n'est pas une question de nervosité. Je vais vérifier l'heure. Est-ce que j'ai le temps de vous parler d'une quatrième point de nervosité? Mon dernier point de réflexion. Pourquoi est-ce que, faites-moi confiance, ça ne convient plus, comme David Smith ou comme Bob Harding l'a dit à une réunion porcine? Eh bien, le code ne va pas nous permettre de réussir, peu importe. Et pourquoi pas? En Amérique du Nord, surtout, les gens ont eu une énorme confiance dans la ferme familiale, le style de ville agraire. Et même en 1950, on entendait les sociologues qui disaient qu'avec l'industrialisation de la société, la grande menace, surtout en Amérique, mais ça s'appliquait au Canada aussi, la grande menace envers la société nord-américaine était le déclin du mode agraire, alors que les gens allaient vers la ville et commençaient à travailler dans les fabriques. Et c'était perçu comme un véritable problème social. Aujourd'hui, lorsqu'on sort un livre de bibliothèque, on regarde les animaux de la ferme, on voit cette petite ferme familiale mixte et les critiques de la production animale font attention d'essayer de démanteler cette image idyllique avec des images comme l'agriculture à l'usine a remplacé la ferme familiale. Vous savez qu'au Canada, on a encore la ferme familiale en bon nombre grâce à la gestion de l'offre. Et ce qui s'est passé au sud de notre frontière ne s'est pas manifesté ici, mais la claustration dans ces grandes entreprises ne ressemble pas au modèle auquel on a confiance, celui de la ferme familiale. Et ça fait partie du manque de confiance. Alors, l'élément agraire et l'élément industriel ne sont pas les seuls modèles d'occupation. Il y a le professionnalisme. Il y a 100 ans, d'avoir 100 têtes de bétail vous donnait un revenu plus élevé, un statut plus élevé dans la vie que d'être un médecin ou un chirurgien. Mais au fil des 100 ans, les médecins et les chirurgiens se sont organisés dans leur profession. Qu'est-ce que cela veut dire? Ils ont établi des normes. Ils ont vu à ce que les membres de leur groupe professionnel répondaient à ces normes. Et ces normes, ce n'était pas qu'une norme technique, mais c'était des normes qui reflétaient les valeurs et les attentes de la société. Si la production animale pouvait s'éloigner d'un modèle agraire, c'est déjà le cas. Si, au lieu, on pouvait s'appuyer sur un modèle professionnel plutôt qu'un modèle industriel, je crois qu'on pourrait atteindre nos objectifs et garder la confiance du public que la production animale, dont la production animale jouissait il y a un bon bout de temps. Donc, voilà mes pensées sur cette rencontre. Mais je veux vous donner deux petits textes qui sont le résultat de pensées que j'ai eues pendant cette rencontre et des rencontres précédentes. Et je les mets ici pour inviter vos commentaires. Est-ce que nous avons bien capturé la vision partagée de ce que nous essayons d'atteindre? Donc, j'ai un énoncé de vision. Ce que nous voulons, c'est un programme complet d'assurance du bien-être animal qui reflète les valeurs canadiennes, qui est fondé sur des normes scientifiques nationales et qui implique une série d'activités de conformité suffisant à inspirer la confiance au pays et à l'étranger dans le bien-être des animaux d'élevage au Canada. Et si je peux avoir la prochaine diapo. Et j'ai aussi mis sur papier quelques composantes et je pense que ces composantes ou ces éléments seront disponibles. Quels sont les éléments à chercher? Qu'en est-il d'une série de normes nationales d'actualité mises au point grâce à un processus reconnu avec la participation de nombreux intervenants, la reconnaissance et l'utilisation de normes nationales dans tout le pays, des activités de conformité, programmes d'assurance de la qualité, lignes d'assistance téléphonique, sensibilisation, vulgarisation et application de la loi donnée par du personnel bien formé, des moyens de suivre l'évolution des valeurs du public, la promotion. La profession doit avoir des normes qui ne sont non seulement techniques, mais des normes qui reflètent les valeurs du grand public, des données scientifiques pluridisciplinaires et bien ciblées, le partage de renseignements et de pratiques exemplaires d'une administration et d'une industrie à l'autre. Alors, on a tout lu. Bon, voilà, c'était ma tentative. J'ai essayé de voir quels étaient nos objectifs Et si on a le temps, je serais intéressée de savoir si j'ai oublié quelque chose. Et dans l'avenir, je serais très heureux si vous pouviez penser à mes réflexions et me donner vos réactions alors que nous essayons de créer une vision de consensus. Merci encore une fois les organisateurs et organisatrices pour cette belle rencontre et merci de votre participation.